Trempée, j'ai dû sortir comme ça, mais qu'est-ce qu'on a fait des vêtements de pluie?
Ah Mimi, pour le retour de la belle saison, j'ai bien tout rangé au grenier, et bien avant que tu me le demandes cette fois-ci.
Si t'avais écouté la météo de l'agité, t'aurais attendu encore un peu.
Vous vous souvenez de vos premiers pas avec un instrument de musique, les doigts douloureux ou la bouche anesthésiée après les premières leçons selon votre instrument? Vous vous êtes lancé et un jour vous commencez à voir les résultats, vous avez même fini par rejoindre un orchestre, un groupe ou un ensemble et voilà, la pratique prend tout son sens. Collectivement, il se passe quelque chose. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, moi aussi, c'est qu'il y a un festival en Mayenne qui met à l'honneur tous ces ensembles locaux. C'est le festival Les Baldifolies à Baie qui aura lieu le 29 juin pour sa 10e édition. Et justement, mon invité d'aujourd'hui est Adélaïde Vivien. Bonjour Adélaïde, merci d'être avec nous. On va découvrir ou redécouvrir ensemble ce festival avec vous dans quelques instants. Je vous ai présenté mon invité d'aujourd'hui, mais pour animer cette agité du local, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Léane qui sera avec moi pendant 2 semaines, ainsi que Léonie qui découvre l'émission avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
On vous retrouve tout à l'heure donc pour la météo et pour l'actu en bref. Ensuite, on reviendra ensemble sur la manifestation qui a eu lieu ce week-end à Laval, comme partout en France. Les syndicats ont appelé à s'unir contre le Rassemblement national. Ça s'est passé samedi et nous étions sur place pour tendre notre micro. Nous écouterons ça donc en deuxième partie d'émission. On terminera cette émission avec notre chronique du jour, bien sûr, réalisée par la Ligue des droits de l'homme de la Mayenne, qui nous parlera aujourd'hui de liberté. Nous écouterons Frédéric Benoît. Bienvenue à vous, amis auditeuristes, je suis Margot et on commence ensemble la semaine avec Adélaïde Vivien, je vous le disais tout à l'heure. Adélaïde, vous représentez le pôle communication du festival Les Baldifolies, je le disais tout à l'heure, qui a lieu le 29 juin à Baie, qui fera donc sa 10e édition. C'est un festival qui est organisé en fait par l'Harmonie de Baie, c'est ça?
C'est ça, l'Harmonie de Baie qui est elle-même un groupe amateur. Donc ça fait 10 éditions, donc depuis 2005, que le festival existe et qui est mené justement par les musiciens de l'Harmonie de Baie, mais aussi des Baldicéens qui se sont joints à l'Harmonie de Baie pour faire vivre le festival.
Ah, donc ce festival, c'est une édition tous les 2 ans. Son principe, c'est qu'il soit gratuit pour tout le monde. Cette année, on va encore compter 1200 musiciens le temps d'une soirée, une quarantaine d'ensembles de musiciens amateurs mayennais. Finalement, c'est un peu le rendez-vous qui amène la musique locale, voilà, qui lui permet de réunir tout le monde, j'ai envie de dire.
C'est ça, c'est le rendez-vous incontournable tous les 2 ans à B, qui permet de réunir tous les musiciens amateurs du département, mais aussi de pouvoir venir en amis, en famille, partager un moment convivial, festif, musical, tout au long d'une soirée.
Alors, on a l'habitude de pouvoir y découvrir 6 scènes. Est-ce que cette année, il y a des modifications? Est-ce que c'est la même chose?
Alors là, on aura donc 6 scènes. Ça reste au même endroit qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire au niveau de l'école primaire de Baie ainsi que la salle polyvalente, ce qui nous permet d'avoir un endroit assez sécurisé. On aura, comme il y a 2 ans, on avait eu le collectif Caméléon à venir pour la prévention, ce qui permet d'avoir un stand de prévention sur place. Et après, nous, on aura différents temps forts durant cette édition.
Et avant de revenir justement sur ces temps forts, la particularité aussi de ce festival, c'est qu'il y a différents styles musicaux finalement qui sont présentés.
C'est ça, on va passer de la musique classique à la musique de rue, au steel band, au brass band, au jazz, au rock. C'est vraiment un festival éclectique, ouvert à tous, avec tous genres musicaux et qui inclut les plus jeunes et les moins jeunes.
Et alors, quand on parle de pratique amateur, est-ce qu'il y a tous les niveaux finalement qui sont représentés ou est-ce qu'il faut quand même peut-être un certain niveau pour pouvoir participer au festival?
Eh bien, il n'y a pas forcément de niveau attendu puisqu'on va par exemple accueillir des élèves des écoles de B et d'Ambert pour une partie chorale. Nous avons aussi les orchestres à l'école qui participent et ce sont parfois des jeunes musiciens qui ont 1 ou 2 ans de pratique musicale tout juste. Donc c'est vraiment, on va du débutant au semi-professionnel.
Et alors, on le disait tout à l'heure, avant ce direct ensemble, finalement, c'est le moment où tous les ensembles peuvent se croiser sur le département. C'est-à-dire qu'un orchestre du Nord-Mayenne ne croise pas forcément celui de Château-Gontier. Et là, c'est le moment aussi attendu, finalement, par ces musiciens pour se dire, allez, on crée un événement tous ensemble et on le présente à l'ensemble des Mayennais.
Oui, c'est totalement ça. C'est vrai que la Mayenne est grande et large et c'est vraiment un point de rassemblement. Parce qu'entre musiciens, on ne se croise pas forcément, on a chacun nos concerts, etc. Et donc c'est vraiment le moyen de reprendre contact avec d'autres orchestres, d'autres chorales, d'autres styles musicaux aussi.
Oui, puisqu'on ne l'a pas dit, c'est vrai, mais il y a aussi des choristes. Si, je l'ai précisé tout en début, mais il y a aussi la chorale, ça c'est important de le préciser.
Oui, on a aussi des choristes, des chorales à venir. Et d'ailleurs, on va avoir, c'est un nouvel événement, c'est qu'on va avoir un grand chœur qui va être... de plus de 120 choristes accompagnés des Konik Brass Band. Mmh. Et donc là, ils vont vraiment avoir tout un ensemble. Ils ont déjà fait plusieurs répétitions tous ensemble, donc ce qui est très impressionnant. 120 choristes rassemblés de différentes chorales. Et donc ça montre aussi que les Bals di Folie, c'est aussi le moyen de monter des projets entre groupes et de pouvoir faire des rencontres à cette occasion.
Oui, c'est l'occasion. Et quand vous parlez justement du Grand Chœur et des Konik Brass Band, ils interpréteront notamment une œuvre composée pour l'occasion par François Jatteau. C'est un compositeur amateur mayennais, c'est ça ?
C'est ça. Mmh. Et donc, il leur a créé une œuvre dédiée. Et donc, la grande découverte sera le 29 juin prochain.
Parmi ces temps forts, donc on a dit qu'il y avait 4 temps forts. Il y a ce premier temps fort dont on vient de parler, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur les 3 autres ?
Eh bien oui, en reprenant par exemple sur les orchestres à l'école, il va y avoir, donc ils ont fait une masterclass là plusieurs fois dans l'année avec l'AFPOC, qui est de la musique de rue. Donc ça va être l'occasion pour ces jeunes collégiens de B et de Goron de pouvoir tester cette musique de rue accompagnée de musiciens semi-professionnels. Et on va avoir également un autre projet masterclass entre les chorales des écoles primaires de B et d'Ambert avec le Big Bang Sud Mayenne, où ils vont prévoir présenter un répertoire jazz qui a été justement créé et arrangé à l'occasion par Stanla Ferrière, qui est aussi un compositeur, enfin un arrangeur, qui a travaillé vraiment sur ce projet-là pour eux. Et enfin, on a l'occasion et on a la chance aussi de pouvoir avoir le projet de l'Orchestre symphonique de la Haute-Mayenne en association avec l'artiste Lane Ewok Robinson, qui est un compositeur sud-africain. Et pour ce projet, donc, ils vont faire le Blue Gen symphonique. Donc ça va vraiment être l'occasion pour eux de mêler rock, jazz et musique classique, avec une création musicale aussi de Charles Amblard, qui est un compositeur-arrangeur lavallois.
On remarque effectivement des projets ambitieux qui sont vraiment préparés et construits, des compositions spécifiques pour les Bals di Folie. Et pour clôturer cette soirée, il y a également l'orchestre Génération.
C'est ça, c'était un peu pour pouvoir marquer et changer aussi un petit peu des éditions différentes, d'avoir l'orchestre Génération qui vient. Donc c'est vrai que la dernière partie de soirée sera vraiment consacrée à l'orchestre Génération sur la grande scène du festival, et ça va vraiment marquer cette 10e édition un peu comme une édition anniversaire pour le festival.
Il y a une nouveauté cette année, c'est au niveau de la restauration. Pour ceux qui connaissent déjà un peu les Bals di Folie, il faut se dire cette année il y a du nouveau.
C'est ça, cette année il y a du nouveau. Donc comme les autres années, nous gardons le système de sandwich, de galettes saucisses, crêpes, mais pour la nouveauté, nous aurons des burgers. Et tout cela, tous nos produits sont des produits locaux. Il nous semble important de le noter. Et nous aurons également 3 buvettes d'ouvertes au lieu de 2 les autres années. Et pareil, nous prenons des produits locaux.
Alors le festival, je le rappelle, a lieu donc le 29 juin. On peut se rendre sur place à partir de 15h.
C'est ça, ça sera ouvert dès 15h. Et ce, jusqu'à 2h du matin à Baie.
Des centaines de bénévoles sont impliqués sur cet événement. Alors là, vous ne recherchez pas pour cette année, mais éventuellement, peut-être pour les prochaines éditions, il faut y penser.
Il faut y penser, on est ouvert. Donc c'est vrai que nos bénévoles, on les reconnaît souvent avec leur t-shirt bleu. C'est un peu notre armée bleue, nos petites mains. Et donc il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre pour les éditions prochaines, parce que c'est vraiment une grande famille. Et d'année en année, on retrouve les mêmes bénévoles et ça crée du lien et c'est une super ambiance. C'est grâce à eux que le festival peut fonctionner. Donc bah, on les remercie grandement.
Et alors Adélaïde, parmi ces bénévoles, moi j'ai envie de marquer un petit temps pour l'équipe de la décoration, puisque finalement j'ai l'impression que tout le monde met la main à la pâte. Il y a la garderie de Baie, les tricoteuses, vous allez peut-être pouvoir nous dire aussi qui sont ces tricoteuses. Et il y a également des résidents de l'EHPAD Le Rochard qui ont mis la main à la pâte.
Donc c'est vrai que pour nous c'était important de pouvoir un peu faire contribuer un peu comme si on faisait participer un peu tout B ou les alentours du moins. Et c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir faire travailler avec l'EHPAD mais aussi les plus jeunes, la garderie. C'est vrai qu'on peut voir sur nos réseaux sociaux, on a quelques photos d'ailleurs de ces moments où chacun met un peu sa main à la pâte pour amener une petite décoration au festival. Donc c'est vrai qu'on remercie la garderie, l'EHPAD, on a aussi le foyer des Bleus et le foyer Blanche-Neige qui nous aident beaucoup sur cette déco. Et les tricoteuses, donc c'est des personnes de B qui sont portées volontaires justement pour venir faire une décoration à base de tricot. Et ça aussi était un moment d'échange avec justement ces personnes de l'EHPAD pour ce moment pour tricoter. Et ça crée aussi du lien et c'est important aussi d'impliquer ces personnes parce qu'elles sont très heureuses de pouvoir aussi la veille et le matin venir installer toute cette décoration. Et c'est un projet porteur pour tous les établissements.
C'est aussi un moyen finalement que tous les habitants de Baie s'approprient aussi le festival. Chacun y met un petit peu sa touche, c'est-à-dire qu'on disait que c'était un événement attendu pour les musiciens du département, mais finalement c'est avant tout un événement attendu pour les habitants de Baie.
C'est ça, c'est un peu le rendez-vous de l'année qui se déroule tous les deux ans. Et c'est vrai que c'est une date qui est un peu marquée dans les esprits, dans les agendas. On sait qu'en général, le dernier week-end de juin, on a le Festival des Baldifolies à Baie et en fait, cet esprit, on le ressent justement chez les habitants. Les Baldiciens sont heureux de pouvoir passer un moment ensemble et les bénévoles, il y a un engouement fort autour de cet événement qui est très agréable et qui se ressent aussi sur le festival, qui fait que ça plaît à toutes les générations et permet vraiment de passer un moment très agréable, un peu hors du temps, le temps d'une soirée.
Et donc, je le rappelle, les Baldifolies, ça aura lieu donc le 29 juin à Baie. L'ensemble du programme, si on peut parler de programme, on peut de toute façon vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez également un site internet.
C'est ça. Donc, le programme va sortir courant juin, là, très prochainement. Et donc, vous pouvez nous suivre. On est sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet aussi. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre, on poste régulièrement, on partage toute la préparation avant, mais aussi on partage toutes les informations concernant le festival.
En tout cas, merci Adélaïde d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous avoir dans notre émission.
C'est à vous.
Merci beaucoup. On continue dans quelques instants donc avec l'actu en bref avec Léane et Léonie, mais d'abord on écoute un morceau que Léane a choisi, on écoute Solane, Petit Corps.
Ça résonne et ça sonne faux, une distorsion dans mes os, silencieusement qui se glisse, s'éternise dans ma matrice. Petit corps sera grand demain. Mes os dans les mains des autres pour qu'ils les petit corps s'aimera demain. Pour l'instant, je délègue et j'observe de loin. Pour le moment, petit corps, demain suffira. Enfin, je croise les doigts. Petit corps, les parois, les griffes sortent et je m'agrippe, mais ça fond sous mes doigts. L'orange, je respire pas et je flotte dans mes draps. Mes poumons se déballent, mais le corps n'y est pas. Un, deux, trois. Petit corps, respirera demain. Pour l'instant, je me dédouane et je reste loin. Pour le moment, pour le moment. Petit corps, demain vivra bien. Enfin, je croise les doigts. Petit corps, un, deux, trois.
Et on commence tout de suite l'actu en bref. Le 30 juin aura lieu le premier tour des élections législatives. Les différents partis avaient jusqu'à ce dimanche 16 juin 18h pour déposer les candidatures de leurs représentants. La préfecture de la Mayenne a donc communiqué la liste définitive des candidats des trois circonscriptions de notre département.
Pour la première circonscription, nous avons Guillaume Garot, député sortant, membre du Parti Socialiste et candidat du Nouveau Front Populaire. Paul Veillé de Sauras, membre du Rassemblement National. Stéphanie Bon-Arthuis, membre des Républicains. Fabrice Romier, de la Lutte Ouvrière. Et Vincent Saunier, candidat UDI. En deuxième circonscription, candidate, Jean-Luc Placé de la Lutte Ouvrière, Grégory Boisseux, écologiste et membre du Nouveau Front Populaire, Jean-Michel Cadenas du Rassemblement National, Patrick Grudet du Parti Liberté Démocratique Français, Pierre-Élie Guyon, candidat du Parti des Républicains et Géraldine Bagné, députée sortant du MoDem.
Enfin, dans la troisième circonscription, il y a Annibel du Rassemblement National, Martine Hamelin de la Lutte Ouvrière, Yannick Favennec, députée sortant de la majorité présidentielle, et Stéphanie Le Foulon, membre du Parti Socialiste et candidate du Nouveau Front Populaire. C'est tout pour la liste du premier tour. Et pour rappel, vous ne pouvez plus vous inscrire sur les listes électorales, mais peut-être êtes-vous déjà inscrit sans le savoir. Alors pensez à aller vérifier sur service-public.fr sur la page « Interroger votre situation électorale ». Si vous êtes déjà inscrit et que vous savez d'ores et déjà que vous ne serez pas disponible le 30 juin pour voter, vous pouvez faire une procuration directement en ligne. Il suffit de taper « Ma procuration » sur service-public.fr. Là aussi.
Et maintenant, la météo.
Bon, ce week-end, Bernard, t'as pas eu un très bon temps lors de la marche du samedi. Et ça risque pas de s'améliorer cet après-midi, n'est-ce pas Léonie ?
En effet, Léane, dans le nord de la Mayenne, la pluie débarque avec des températures allant de 18 à 19 degrés, histoire de pas trop nous embêter.
Heureusement, elle ne s'attaque qu'aux extrémités de la région avec des températures de 17 à 21 degrés dans le sud, dont 19 vers Château-Gontier.
Mais si t'es à Laval comme nous, on a de la chance, on s'en sort avec des nuages et une température aux alentours de 18 degrés. Bon, on espère que t'as pas fait comme Léane et que t'as prévu une petite laine.
Merci Léonie pour ce conseil. Ne t'inquiète pas, je songerai à prendre ma petite veste si je sors ce soir. Car en soirée, bien que la pluie se calme, on reste sur du 18 degrés. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est plus demain matin.
C'est vrai que notre chère mère nature nous prévoit une bonne saucée avec une chute des températures entre 16 et 17 degrés. Mais pas de panique, les températures remontent dans l'après-midi jusqu'à 25 degrés.
Quel temps aléatoire, on ne sait plus si on doit sortir la veste ou le t-shirt.
Partout en France, des manifestations contre l'extrême droite ce week-end et en Mayenne aussi. Samedi 15 juin à Laval, les manifestants ont répondu présents à l'appel de l'intersyndicale qui comptabilise entre 1500 et 2000 personnes à s'être rassemblées alors que la police indique 1000 manifestants. Le point de rendez-vous était le parvis des droits de l'homme à 17h. Le parcours s'est terminé face à la préfecture où des slogans antifascistes étaient scandés jusqu'à à peu près 19h. Des élus étaient également présents comme le maire de Laval, Florian Berco, et le député sortant Guillaume Garot, mais aussi et surtout un grand nombre d'associations et des Mayennais venus crier leur rejet du Rassemblement National. On y était, écoutez.
L'extrême droite obtient presque 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives en 3 semaines, après les premiers départs en vacances et à la veille des Jeux olympiques, le président de la République prend une lourde responsabilité.
L'extrême droite compte mener une politique économique en faveur du patronat et des riches au détriment des travailleurs et des travailleuses et des plus modestes. Elle n'améliorera en rien le système de santé, bien au contraire, comme en attestent les votes du RN à l'Assemblée nationale.
Arnaud Reger, je fais partie de la CFDT des Pays de la Loire. Aujourd'hui, l'important pour nous, c'est d'appeler les électeurs à voter et à voter contre le Rassemblement national. Il y a aujourd'hui pas mal d'offres politiques et pour nous, il est important de souligner que l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres. Les autres, on peut discuter avec eux, on peut aussi leur dire parfois qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais l'extrême droite, c'est plus dangereux. Il y a des choses fondamentales qui sont mises en cause dans leur programme et en tout cas, certainement pas des droits sociaux pour les travailleurs.
Quels sont les principaux dangers sur lesquels vous souhaitez alerter justement les citoyens sur cette possibilité d'une extrême droite au gouvernement?
Une extrême droite au gouvernement, ça serait forcément une tentation d'avoir un pouvoir très autoritaire. Donc tout ce qui va être les libertés d'expression, la liberté de pouvoir vivre de manière libre individuellement qui serait menacée, notamment pour les minorités, mais aussi de manière plus générale pour les médias, pour évidemment les organisations syndicales, mais toutes les personnes qui sont en soutien, y compris dans les associations, ce serait forcément des moyens en moins, des freins et beaucoup moins de solidarité. Le programme du Rassemblement national, c'est un programme de division et d'opposition qui ne va certainement pas apaiser les choses, mais plutôt cliver les gens.
Vous attendez des propositions fortes des différents partis lors de cette campagne des législatives?
Nous, on maintient qu'on a des revendications et qu'on va être attentif et on va demander à tout le monde de bien regarder les programmes parce qu'on attend bien évidemment que sur le pouvoir d'achat, sur les solidarités, sur la capacité à avoir une fonction publique forte qui permette de répondre aux besoins des gens, à ce que les jeunes aussi puissent bénéficier d'une entrée dans le monde du travail qui soit avec le moins de difficultés possible et le fait aussi de pouvoir avoir tout simplement le droit de vivre dignement de son travail.
Motivé à venir à cette manifestation aujourd'hui?
Je dirais que c'est tout simplement la défense de la démocratie, la défense des droits des gens, des citoyens, et surtout éviter la poursuite de la vague Front National. Le Rassemblement National, ce n'est que le Front National, hein, sous un autre nom, mais c'est aussi dangereux si ce n'est pas plus.
Et qu'est-ce que vous attendez des prochaines législatives qui vont arriver le 30 juin?
Moi j'espère que va y avoir un sursaut démocratique. Moi j'étais vraiment estomaqué, mais complètement abasourdi par la vague Front National, enfin Rassemblement National. Mais c'est pour ça que maintenant, il faut que les citoyens, la démocratie se réveille. Et je dirais, comment il s'appelle, Hitler, il est bienvenu au pouvoir parce qu'il y avait une crise et il est venu par la démocratie. C'est ça qui est la catastrophe et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit et c'est ça qu'il faut absolument empêcher.
Il y a l'Union de la gauche, le nouveau Front populaire. Oui. Emmanuel Macron, lors de sa dernière conférence de presse, a mis un petit peu le Rassemblement national plus le Front populaire sur un pied d'égalité en termes de danger. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça?
Absolument pas. Le danger, il vient bien de l'extrême droite, il ne vient pas de l'extrême gauche. L'extrême gauche n'a pas pour ambition de prendre le pouvoir, elle a pour ambition de défendre les droits des citoyens, les droits des gens qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de boulot ou qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois.
Je suis Claudine et je suis adhérente à la CGT depuis une cinquantaine d'années. Donc militante syndicale en son temps, militante syndicale encore chez les retraités, parce que c'est important, il y a beaucoup de revendications des retraités. Donc je suis là aujourd'hui contre le Rassemblement national, mais pour aussi ce projet, programme qui vraiment, je pense, est attendu par, je ne vais pas dire tous les Français, mais par beaucoup de Français.
Comment vous vous expliquez peut-être cette montée de l'extrême droite qu'on a pu voir justement aux européennes ?
C'est pas aux européennes seulement, c'est déjà dans l'histoire depuis de trop nombreuses années. Je me souviens avoir défilé en 2002 contre l'arrivée de Le Pen au deuxième tour, parce qu'il était en face de Chirac, hein. Et je m'étais dit, ah, on est quand même nombreux, peut-être que la politique va changer. Mais Chirac, il a fait comme s'il avait gagné ses 80 et quelques pourcents sans la rue. Contre la rue, il l'a fait. Donc là, cette fois-ci, c'est totalement différent. On est dans une période où on a à lutter contre le Rassemblement national, mais on a aussi une sortie. Et tel que c'est construit en ce moment, pour moi, franchement, c'est historique ce qui se passe. C'est historique. Cette idée que peut-être un autre qu'on ne connaît pas, un Rassemblement national qu'on ne connaît pas, ben peut-être qu'on pourrait l'essayer. Mais non, ce n'est pas possible. Nos parents, ils l'ont vu, le Rassemblement national. Il s'appelait autre chose, mais ils l'ont vu. Et non, il faut que les gens s'engagent parce que les forces de gauche qui se sont rassemblées aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais c'était voulu aussi par le peuple. Donc là, aujourd'hui, on y est. Et je suis sûre, moi, que ça va changer quelque chose le 30 juin et au mois de juillet, on respirera.
On a pu remarquer justement que les militants qui suivent le Front populaire aujourd'hui mettent aussi la pression. Ne nous trahissez pas, on entendait ça dans la rue.
Ne nous trahissez pas. Et il y a aussi quelque chose que les médias véhiculent et qui est insupportable. C'est la question du Premier ministre. Et moi, je vous dis, ça m'est égal. Je m'en fous de qui c'est. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est que les engagements qu'ils ont pris, ils les tiennent, quoi. Donc, j'appelle, moi, les gens à se renforcer, lutter. Parce qu'en fait, le gouvernement qui pourrait être là à nos côtés, il va falloir l'aider aussi. De manière à ce qu'en effet, les engagements qui sont pris... Ils soient tenus et il faut qu'on soit attentif et puis qu'on donne les coups de main nécessaires.
Pour l'instant, je ne peux pas voter. Moi, actuellement, j'ai 15 ans. Moi, personnellement, en fait, j'ai l'impression de vivre un peu avec des œillères parce que mon entourage est de gauche. Mes amis sont de gauche et même ce que je vois sur les réseaux, c'est principalement de la gauche. Du coup, ça m'a surpris. Je pensais pas qu'autant de gens allaient supporter Bardella. Et du coup, j'ai aussi ressenti de la peur. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, donc c'est pour ça que je suis ici en manif, pour pouvoir faire entendre ma voix.
Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Est-ce que vous arrivez à vous projeter ou vous pensez que c'est encore compliqué dans le contexte actuel ?
Dans le contexte actuel, j'ai l'impression que c'est compliqué, oui. De s'imaginer un futur plus tard, avec tous les dangers qu'on a, le danger climatique, c'est difficile de se projeter, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire quelque chose sur les enjeux climatiques.
Qu'est-ce que vous craignez, là, si jamais on projette l'extrême droite, justement, au gouvernement ?
Je crains un gouvernement qui serait ouvertement fasciste et aussi la réduction des droits sur certaines personnes, par exemple les personnes racisées, et même la réduction des droits pour les enfants trans ou les enfants LGBT.
Qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella qui joue énormément sur les codes des réseaux sociaux, TikTok, etc., pour atteindre justement un public plus jeune ?
Je trouve que c'est bien utiliser les réseaux sociaux, mais lui, il l'utilise vraiment pour berner la jeunesse en leur faisant croire de belles choses. Alors que si on lit son programme, c'est vraiment toute autre chose. Et si on se fie à ses votes aussi, c'est vraiment autre chose. Et il fait beaucoup de beaux discours, mais du coup, comme je l'ai dit par rapport aux votes, on voit que c'est totalement différent, quoi. Enfin, il n'est pas honnête sur les réseaux.
Et on passe maintenant à la chronique du jour. Aujourd'hui, on a la chance d'écouter la Ligue des droits de l'homme. Et aujourd'hui, notre chroniqueur est Frédéric Benoît et il nous parle de liberté. Écoutez. Bonjour Frédéric Benoît, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Margot, je vais évoquer aujourd'hui la liberté. Elle comme liberté, l'un des termes de notre devise nationale, avec ceux d'égalité et de fraternité, qui font l'objet également d'un podcast. La liberté, donc, premier principe de notre devise. La liberté, tout comme la notion d'égalité, est posée, en effet, comme principe dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Texte, rappelons-le, qui fait partie du préambule de notre Constitution. L'article 1er, que nous connaissons bien, énonce ceci. « tous les hommes naissent libres et égaux en droit.
Mais alors de quoi il s'agit au juste quand on dit naître libre et égaux en droit ?
Alors il faut regarder l'article 4 de cette déclaration qui définit ainsi la liberté. Je cite « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire simplement ? Que l'homme est un être social, il vit en société. Pour que cette société fonctionne, pour que chaque individu puisse y vivre pleinement ses droits, il faut des règles. Il s'agit donc de parler de la liberté dans le cadre d'un état de droit. Je cite à nouveau, « La loi n'a le droit d'interdire que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Voilà, ça c'est l'article 5 de cette déclaration. Notre liberté est donc bornée par la loi, laquelle est la même pour tous. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé.
Est-ce que la liberté comme principe ne concerne que la France ?
Alors la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reprend les droits civils et politiques de 1789 en les élargissant. Elle y ajoute les droits économiques, sociaux et culturels. Elle précise surtout les libertés individuelles, la sûreté pour chacun avec les garanties de la personnalité juridique contre l'arbitraire et l'injustice. L'interdiction de la torture et des traitements dégradants. Je rappelle qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et des tortures nazies. L'interdiction de l'esclavage, qui n'était pas aboli partout à cette époque. Liberté d'opinion, de conscience, de religion, y compris d'en changer. Elle cite également, et c'est important, les libertés collectives. La liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté d'expression, comme la liberté de la presse, par exemple. C'est un texte déclaratif qui pose l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples.
Est-ce que tous les peuples sont susceptibles d'atteindre cet idéal, justement ?
Dans les médias, de plus en plus, la notion d'État autoritaire est utilisée pour signifier que, pour beaucoup et dans de nombreuses régions de la planète, des libertés restent à conquérir. La liberté d'expression, par exemple, devient un indicateur fort de démocratie ou de non-démocratie dans le monde. L'exemple de la Chine. État autoritaire sans conteste, est cité largement quand il est question de la surveillance et de la censure, et depuis la mise en place de l'Internet dans ce pays, plus que jamais. La surveillance des individus dans la vie réelle via les caméras urbaines est doublée d'une surveillance de leurs agissements sur la toile, spécialement dans l'espace public. C'est les forums, les blogs, les réseaux sociaux qui sont bloqués. Celle-ci s'effectue par un contrôle à la fois automatisé et humain, où la vigilance de chacun et la délation sont considérés comme des actes citoyens complémentaires à la surveillance officielle.
Est-ce à dire que les États démocratiques sont vertueux à cet égard ?
C'est pas si simple. En bloquant la plateforme TikTok en Nouvelle-Calédonie, qui fait partie du territoire national de la France, le gouvernement a établi un précédent en tant que pays démocratique. La plateforme est accusée d'avoir contribué à la propagation des troubles insurrectionnels à l'ordre public. Plusieurs associations de défense des libertés publiques, dont la Ligue des droits de l'homme, ont déposé une demande de suspension du blocage auprès du Conseil d'État. Demande qui a été rejetée par ce dernier, qui estimait que ces associations n'avaient pas apporté la preuve d'une violation flagrante des droits des habitants de Nouvelle-Calédonie. Alors, je cite là l'article 19 de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit ceci « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ». Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et de ne pas être inquiété pour le fait de rechercher, de recevoir, de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Avec TikTok, on y voit une ingérence pour déstabiliser le pays. Bon, c'est possible. Mais qu'aurait-on dit si, au moment les plus forts de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait bloqué les réseaux sociaux, moyens de communication privilégiés des manifestants de l'époque. Cet exemple montre que les pays démocratiques ont souvent la tentation de prendre des mesures dont on dit qu'elles sont d'exception. D'où l'importance de la vigilance citoyenne et associative tous les jours.
Merci Frédéric Benoît. Et donc j'invite les auditeurs à aller écouter les podcasts consacrés à l'égalité et à la fraternité. Merci. L'agité du local rend l'antenne. Merci à Adélaïde Vivien d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler des Belles Difolies. Merci à Frédéric Benoît également et merci à Léane et Léonie de m'avoir accompagnée aujourd'hui dans cette émission. Alors les filles, ça continue sur les ondes de l'autre radio.
En effet, à 19h, on écoutera Solénoïde. L'émission nous propose un voyage sonore et nous offre un mix transversal de musique pas banale.
Ensuite, une de nos bénévoles a été fouillée dans sa collection de disques.
Eh bien oui, puisqu'à 20h, on écoute la discothèque de Morgane.
Nous, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Demain, nous serons avec Roland Bouchon, directeur du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe et directeur de l'action culturelle de Sablé. Il nous parlera du festival Pop au Parc, un festival entièrement gratuit qui aura lieu donc à Sablé du 28 au 30 juin. D'ici là, informez-vous, prenez soin de vous et de votre esprit critique. Il est précieux, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.